franceinter.fr.
Bonjour. Les tribunaux correctionnels pour mineurs n'auront duré que 4 ans. Créés par la droite en 2012, ils viennent d'être supprimés par la gauche dans la loi Justice au XXIe siècle votée par l'Assemblée nationale mercredi. Il faut dire qu'ils ne jugeaient que 1% des mineurs poursuivis en justice. Depuis quelques années déjà, la justice des mineurs est devenue un enjeu politique. On semble revenir peu à peu au temps où les enfants étaient jugés comme des adultes. C'est pourtant bien l'ordonnance de 1945 qui fixe toujours le cadre juridique en la matière. Elle pose comme principe que tout jeune est éducable, qu'avant d'être un délinquant, il est un enfant. Elle a aussi jeté les bases de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, environ 5000 éducateurs et 1000 travailleurs sociaux ou de santé, auxquels s'ajoutent 3000 salariés associatifs. Ils sont chargés d'aider les jeunes délinquants à prendre leur place dans la société ou de protéger les jeunes en danger. Mais depuis une vingtaine d'années, l'ambiance politique a changé. Les solutions répressives ont pris le dessus. Sous les présidences de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy, plusieurs mesures ont durci les réponses pénales. Centre éducatif fermé, peine plus lourde, peine planchée, tribunal correctionnel pour mineurs. L'actuel gouvernement est en partie revenu sur ces orientations, mais 9 mineurs délinquants sur 10 font aujourd'hui face à une réponse pénale, contre seulement 6 sur 10 il y a 20 ans. Dans ce contexte, quelles doivent être la place et les moyens alloués aux éducateurs de la PJJ ? Wafia Kenich a suivi pendant plusieurs jours le travail de quelques-uns d'entre eux en Seine-Saint-Denis. Son reportage, PJJ, quand la justice s'occupe de nos enfants, commence dans le bureau d'un juge pour enfants, mais en fiction, grâce à un extrait du film d'Emmanuel Berco, La tête haute.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bien, tu t'assois, jeune homme. Vas-y, va t'asseoir, tu restes debout, mais tu me regardes au moins. Hein, y a rien d'intéressant par terre. Tu retires ta casquette, s'il te plaît. Est-ce que tu te souviens être déjà venu dans ce bureau ? Est-ce que moi, tu sais qui je suis ?
La juge.
Bon. Pourquoi tu es ici, aujourd'hui, dans le bureau d'un juge ? Je sais pas ce que tu fais ici. T'as ton permis de conduire, jeune homme ? Ça vous fait rire. C'est un acte très grave, hein, de conduire sans permis. Il n'y a pas eu de victime, il aurait pu renverser quelqu'un. Et vu ce qu'il encourait, croyez-moi, vous auriez plus du tout envie de rire. Hein. C'est vous qui êtes civilement responsable, madame. Si vous ne voulez pas perdre la garde de vos enfants et répéter le schéma, hein, il va falloir redresser la barre très vite. Et vous montrer capable d'un peu plus de maturité pour élever vos enfants. Et la scolarité, comment ça se passe ?
Il n'a été que 5 jours en classe depuis septembre. Il y a un comportement agité, détérioration de matériel, dérapage verbaux avec les professeurs. Il passe en conseil de discipline le 11 octobre.
Bon, ben on va attendre l'issue du conseil de discipline. Je demande un suivi éducatif. Je mets en place une mesure d'AMO. Pour aujourd'hui, je m'en tiens à un avertissement. Mais ça suppose aussi que tu reprennes un rythme scolaire normal et que tu te tiennes à carreau. Hein, sinon, c'est une mesure pénale au-dessus de ta tête. La balle est dans ton camp. Compris ?
On est devant le tribunal, devant le palais de justice, là où nous avons rendez-vous avec Anis, qui est un jeune donc, qui va la connaître, avoir une audience avec une juge, et avec Marie-Lise Locale, l'éducatrice de la PJJ que l'on suit depuis quelques jours pour ce reportage. À l'intérieur de ce tribunal, il y a plusieurs instances différentes. Il y a ce tribunal pour enfants qui est au bout d'un petit couloir où on va arriver dans quelques instants, là où les enfants et les éducateurs attendent de passer en audience dans le bureau de la juge des enfants. On y va.
Ça fait un peu plus de 2 ans qu'il est suivi par le service éducatif. J'avais fait ce premier entretien d'accueil avec la maman et je l'avais rencontrée. Mmh. Voilà, donc depuis mars 2014.
Là, c'est plutôt calme. Et ben voilà Anis qui doit se demander,
qui va voir son avocate. Donc ça, on a.
C'est la maman d'Anis.
Voilà,
bonjour madame.
Votre fils est donc suivi depuis 2 ans par Marie-Lise Leca.
Oui.
Est-ce que vous avez compris immédiatement à quoi elle servait, quel était son rôle?
Bien sûr, ouais. Bien sûr. L'éducateur, c'est quelqu'un qui est là pour l'aider dans son avenir, déjà, et voir plus, parce que même Lucas, c'est plus, quoi. C'est une éducatrice hors pair, on va dire.
Et Anis, vous avez eu l'impression que depuis l'intervention de son éducatrice, il y avait des choses qui se mettaient en place ou qui changeaient pour lui?
Bien sûr, qu'il avance. Avec l'aide de son éducatrice, il a compris pas mal de choses. Voilà.
La justice des enfants, la justice des mineurs, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un derrière. Moi, toute seule, il faut avoir, comme Madame Lucas est là, donc elle avance les choses pour des papiers ou pour des convocations. Voilà, elle est là, appelée toujours et toujours, quoi.
Pour moi, entre les bêtises qu'a faites votre fils, mm-hmm, et aujourd'hui, il y a du temps qui est passé, c'est mm-hmm ça? Et lui, est-ce qu'il comprend qu'il y ait autant de temps qui se passe entre les deux?
Ça, j'en ai pas discuté avec lui.
Je trouve ça long, là. C'est long, mais je pense que le jour où... Là, pour ça va être son dernier jugement. Pas aujourd'hui.
Non, pas aujourd'hui.
Mais dans quelques mois, il y aura un dernier grand jugement. Là, il y a encore une affaire, où il y a un enjeu aujourd'hui, puisqu'on demande une modification d'un contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'il puisse revenir vivre chez lui, voilà, chez vous, pour engager sa vie. Mais c'est vrai qu'il était obligé d'être éloigné depuis bientôt un an.
Il a été éloigné de votre domicile pour être éloigné du milieu où il traînait?
Oui, complètement.
Aujourd'hui, il habite toujours.
Bonjour. Comment allez-vous, ça va?
Ça va bien et toi?
Ouais, ça va.
Bon. Vous n'êtes pas trop anxieux de l'audience, là?
Non, ça va.
Ouais.
Tranquille. Là, je vais voir s'ils peuvent... comment dire ça?
Que tu rentres modifier ta...
Voilà, modifier mon contrôle judiciaire, parce que je suis interdit du 93, donc... Là, je viens pour arranger tout ça, vu que ça va faire bientôt un an que je suis interdit. Et j'ai respecté toutes les obligations qu'ils m'ont données, donc je vois pas pourquoi ils refuseraient.
Est-ce que vous pouvez me dire si le fait de travailler avec Marie-Lise, avec Madame Leca, ça vous a aidé, ça vous a servi à quelque chose?
Bah oui, hein, parce que j'ai pu trouver du travail grâce à elle. Et avant, je travaillais pas et je faisais plein de bêtises.
Là. Et vous faites quoi aujourd'hui?
Je suis en CDI, je travaille au McDonald's en attendant de trouver un travail ici, s'ils acceptent que je revienne.
Si tout le monde est prêt, on va y aller.
Bien sûr.
Une heure et demie plus tard, à la sortie de l'audience, Anis et sa mère sont soulagés. Anis en a fini avec sa mesure judiciaire.
Comment ça s'est passé?
Très bien.
Ouais.
Très bien. Ouais. Ils ont levé justement. Il peut rentrer à la maison. C'est top. Ouais, non, je suis contente.
Merci beaucoup. Et donc là, ça se passe comment?
Ce qui se passe maintenant, tu vas au SPIP, absolument.
Ouais, je vais l'appeler.
Et là, on prendra rendez-vous.
Elle prend sa nanou.
Tu te fais des dossiers et tu arrêtes comme un enfant ça. Ouais. S'il te plaît, vous m'appelez pour me dire si Anis fait ses papiers tout seul.
Je lui dis ça, mais elle va jamais penser à vous appeler.
Alors Anis, vous êtes content?
Ouais, c'est bien. Ouais, je suis content. Je suis plus interdit du 93.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de ne plus être interdit du 93?
C'est que je rentre chez moi. J'ai plus à habiter chez ma tante là. Je peux rentrer chez moi à Bobigny.
Et vous êtes sûr qu'en revenant à Bobigny, ça ne va pas vous remettre dans une ambiance...
Non, dans le droit chemin. Ça y est, travail.
C'était comment cette intervention, enfin ce rendez-vous avec la juge? Comment ça s'est passé?
Non, ça s'est bien passé.
Elle vous a écouté?
J'ai pas tellement parlé. Hein.
Ouais.
C'est plus Madame Lequet qui a parlé à ma place. Mais bon. Parce que moi, je ne suis pas trop... Je ne m'exprime pas trop. Je préfère laisser les autres parler à ma place.
C'est pas son... Il n'est pas le meilleur défenseur de lui-même, Anis. Puis en plus, il a un côté un petit peu débonnaire, comme ça. Alors après, quand on en entretient, on sait que c'est bien. Donc il y a une première approche. Et puis en fait, ce qu'il demandait, c'était de rentrer chez lui, chez sa maman. Donc du coup, c'est, il a dit que tout allait bien, alors qu'on est en train de demander une modification du contrôle judiciaire pour qu'il revienne chez lui. Il dit que tout va super bien chez sa tante, hyper loin. Et alors, donc ça, c'est aussi à Nice. Parfois, tu peux mettre un peu en difficulté ce qu'on a écrit dans le rapport en se disant, mais en fait, l'éducatrice, elle le défend comme ça, elle porte des choses... En plus, je suis la seule qui n'avait plus de mesure éducative. Donc c'était une fin de mesure éducative, on a aussi. Voilà.
Et ceux qui n'ont pas la chance comme toi d'avoir une bonne éduque, qu'est-ce qui leur arrive ?
Ils vont en prison, hein. Ou je sais pas, après. En tout cas, j'ai bien de la chance d'avoir une bonne éducatrice. Hein.
À quel âge vous avez commencé les bêtises que vous n'avez jamais faites ?
Ma première garde à vue, elle était à 12 ans. À 12 ans, c'était le jour de mon anniversaire. J'avais volé une moto.
Le jour de votre anniversaire
Je sais pas, j'avais envie de voler une moto, j'étais parti voler une moto. Je me suis fait attraper.
Et qu'est-ce qui vous est arrivé?
Pas grand-chose, vu que j'étais mineur, c'était la première fois, donc rien. Vraiment rien du tout.
Et après, la deuxième?
Ah là, je m'en souviens plus après ça. Après, il n'y a eu que des bêtises après, à partir de ce moment-là.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit justement, je vais arrêter les conneries?
Quand on voit qu'on est à deux doigts d'aller à la prison, en prison. Il y a juste un fil qui tient et il est à deux doigts de craquer. C'est à ce moment-là.
Et la prison pour les enfants, la prison des mineurs, vous avez déjà entendu parler de cet endroit?
Oui, j'ai des amis qui ont déjà été.
Et alors?
À ce qui paraît, c'est pas extraordinaire. À ce qu'on m'a dit, après, ouais. Moi, je sais pas.
Donc, en tout cas, vous êtes bien content de ne pas y être allé?
Ouais, bien sûr. Très content, même.
Merci, Anis.
De rien. Bon, Madame Lecoeur,
je vous dis au revoir, Anis.
À bientôt. Oui. Bon, peut-être.
On va se donner des nouvelles de ta réinstallation.
Peut-être à jamais.
Peut-être
on sait pas. On sait pas.
Allez,
au revoir.
Bonne chance.
Au revoir, Anis.
Anis quitte le tribunal pour enfants, là où tout a commencé pour lui, comme pour tous les mineurs, commettant un acte délictueux. La première étape se déroule dans les sous-sols de ce bâtiment du tribunal, là où les éducateurs de la PJJ les reçoivent tous à la demande du procureur. Marie-Lise Leca, l'éducatrice d'Anis, a 20 ans de carrière dans la PJJ. À 42 ans, elle a connu les changements de cap de sa profession. Pourtant, elle n'a jamais oublié les raisons pour lesquelles elle fait ce métier.
Mon envie d'être éducatrice, c'est quand j'étais animatrice, ma première colonie. Et j'ai rencontré un petit bout de chou de 6 ans. Et la première nuit, pour les préparer, c'était une colonie maternelle. Et on aide les enfants à se mettre en pyjama. Et là, hop, je l'aide à enlever son t-shirt. Et je vois des marques de brûlures de toutes sortes. Et du coup, ça a été le premier, je sortais de ma campagne, un peu de ma famille. Enfin, ça a été une première réalité de ce que pouvaient vraiment traverser des aussi petits bouts de choux. Et ce jeune garçon était suivi par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, qui avait eu un parcours de maltraitance terrible, avec une maman qui était morte en couche. Il était resté 2 jours sur le ventre. Et la rencontre avec les professionnels, donc j'ai rencontré son éducateur. Je me rappelle du pédopsychiatre de la PMI qui venait aussi rendre visite à ce petit bout de chou, là. Et ça a continué de cheminer. Après, c'est aussi avec...
Vous aviez quel âge ?
J'avais 17 ans. Je venais de passer mon bac de français, j'ai passé la première partie de mon BAFA et c'était ma première expérience d'animatrice. Alors ça...
Regardez. C'était quoi son prénom ?
C'était Michael. Enfin, j'espère que c'est toujours Michael. Oui, qui doit avoir plus de 30 ans maintenant. Je me rappelle, il me poussait, il me disait qu'il me mettait des bombes sous mon t-shirt pour que j'explose. Enfin, c'était entre cette attraction et on avait envie de le câliner. Et puis c'était aussi évidemment un petit garçon qui posait beaucoup de problèmes, qui avait du mal à s'adresser ou à être dans les jeux avec les autres. Donc c'est tout ce travail-là. Donc c'était vraiment une première expérience avec ce que ça pouvait impliquer et ce que ça pouvait produire. Et j'ai demandé à faire mon stage long d'éducatrice spécialisée pour faire mon mémoire. Donc ça veut dire 3 mois d'enquête des renseignements généraux. Et de fait, je suis partie en stage à la protection judiciaire de la jeunesse dans un service qui à l'époque s'appelait un centre d'action éducative. Voilà, service de milieu ouvert. Nous, on intervient que parce qu'il y a une décision du juge des enfants ou du juge d'instruction, quand par exemple au pénal ce sont des affaires qui nécessitent une instruction plus longue, une enquête plus longue et que les faits sont graves. Mais nous, vraiment, notre particularité, c'est effectivement parce qu'il y a une ordonnance. Il y a une ordonnance, effectivement, quand il y a danger. Alors après, un juge des enfants, il s'auto-saisit pas. C'est parce qu'il y a des éléments de danger qui lui sont retransmis. Donc souvent, c'est l'école ou ça peut être déjà des éducateurs qui sollicitent l'intervention. On n'attend pas que les gens soient d'accord qu'on intervienne dans leur vie.
Et donc là, c'est quand même intrusif, parce que vous intervenez dans ces familles, et vous devez les faire participer à un moment donné au projet, ou pour la famille, ou pour le gamin. On a l'impression que vous prenez la vie de quelqu'un en charge.
Alors, on ne prend pas la vie de quelqu'un, mais on prend en compte, de manière globale, la vie de quelqu'un. Puisque souvent, de toute façon, on interroge pourquoi un mineur il commet un délit. On pourrait s'arrêter à t'as commis ce délit, bon, ben, tu vas être jugé, tu vas dire que t'es coupable, que tu regrettes et tout ça, mais souvent ça arrive à un moment où on va essayer le plus largement possible, pour nous évidemment de comprendre, mais en fait si on comprend tout seul et que quand on arrive devant le tribunal au moment du jugement et qu'il y a que nous qui avons compris quelque chose et qu'on n'a rien retransmis et rien mis au travail avec le jeune et sa famille, ça n'a aucun sens. Donc c'est vrai qu'on prend largement parce que on peut pas s'arrêter à juste, bah viens pointer, tu viens bien, mais rendez-vous, on se dit deux, trois mots et ça va. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi, à un moment, il s'est passé ça. Et souvent, ils sont très étonnés parce qu'ils me disent « Mais pourquoi ? On va essayer de réfléchir. Pourquoi elle me pose des questions, justement, sur ma vie, sur ma santé, sur mon école, sur mes parents, sur l'histoire de mes parents ? Mais pourquoi ils me posent toutes ces questions ?» Et tout d'un coup, quand les choses s'éclairent comme ça, les choses prennent leur place. C'est-à-dire qu'on revient pas en arrière pour faire comme si ça n'avait pas existé. C'est pas pour occulter, par exemple, la question quand, tant il y a le délit quand c'est un mineur qui est mis en examen, ou tant la question de la notion de danger quand on traite avec des parents ou on questionne qu'en est-il de la situation des enfants, comment ils grandissent, comment les parents sont en mesure d'assurer de garantir les conditions de sécurité physique, psychique de leur enfant. Donc on ne peut pas faire sans prendre tout en compte.
Marie-Lise n'est pas là.
Elles sont à Fleury-Mérogis avec.
Ah oui, avec Alice. Ouais. Elles sont allées voir la jeune fille. C'est ça.
Marie-Lise travaille toujours dans un service de milieu ouvert dans cette unité de Pantin. Avec ses 9 collègues éducateurs, elle accueille à 80% des délinquants, la priorité du ministère. Les enfants en danger, ils ne représentent que 20% du public. Comme ce jeune et sa famille, ils ont attendu 2 ans avant d'être pris en charge par cette unité.
Ça fait combien de temps que tu vis juste avec ta mère et ton frère ?
Presque 4 ans.
Est-ce que tu as le souvenir du jour où tu es partie de votre maison, où vous êtes partie ?
On est parti chez la copine de ma mère, elle a pris des conseils. Après, on est parti au commissariat. On a tout raconté, on a dit on voulait pas retourner chez notre père. Après, on est reparti chez la famille. Après, il y a SES Femmes qui est venue nous chercher.
Qu'est-ce qui se passait avec ton papa ?
Bah, il me battait, c'est-à-dire il me frappait. Et il frappait ma mère, mon frère et ma sœur aussi.
Ce moment-là où vous êtes parti, tu t'es sentie comment, toi ?
En sécurité. De ma mère.
Est-ce que tu as peur parfois de retourner ou de revoir ton père ou de...
Non.
Tu sais que c'est fini ?
Oui.
Comment tu le sais ?
J'ai une petite impression en fait.
Ouais ? Mm. Tu le sens comme ça ?
Oui.
Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'a fait ta mère ?
Qu'elle était vraiment courageuse.
Tu as rencontré Marie-Lise ?
Oui.
Comment tu as compris ce qui se passait pour vous avec Marie-Lise et Lysia ?
Ah oui, c'était des éducateurs pour nous aider, quoi. Mmh.
Donc vous avez passé du temps ensemble ?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? Raconte-moi des choses que vous avez fait ensemble.
La première fois, on était sortis manger.
Ouais.
On est partis à Flunch. Après, la deuxième fois, on est partis à Notre-Dame. C'était la première fois que je l'ai vue.
Ça t'a plu ?
Oui, beaucoup.
Est-ce que vous reparlez de tout ça avec ta maman ?
Non.
Jamais ?
On n'a jamais parlé de ça, en fait. On rigole toujours avec ma mère. On va jamais dans les trucs sérieux, en fait.
Tu n'en as pas parlé avec Marie-Lise non plus?
Si, pour me présenter.
Ouais. Mais tu reviens pas dessus?
Non.
T'as pas envie?
Non.
Parce que c'est triste?
Oui. Même dehors, il était pas comme les autres. Quand je voyais les autres pères, ils étaient différents du mien. Ils étaient plus gentils. Et le mien, vous comprenez.
En tout cas, il fallait que ça s'arrête, ce qui se passait chez toi.
Mmh. Oui.
Tu penses que toi, tu l'aurais supporté encore longtemps?
Non.
Tu t'en rendais compte ou pas?
C'est oui.
Ça déjà. Ouais. Comment tu t'en rendais compte?
Parce que ma mère me raconte que des fois je disais que j'avais envie de me suicider.
Toi, tu t'en souviens pas?
Non.
On y va? On va changer de bureau. Celui-ci, je crois qu'on l'a jamais fait.
Mohamed a été placé en famille d'accueil, en foyer, depuis l'âge de 2 ans. À 16 ans, il devient délinquant. Aujourd'hui, il est accueilli à l'unité avec son père, à la demande du juge pour enfants.
Alors, on va dire que c'est un premier grand rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, la mesure éducative qui a été ordonnée par le juge des enfants, la liberté surveillée préjudicielle, elle commence vraiment maintenant. On va t'accompagner jusqu'au moment de justice qui sera ton jugement pour les faits pour lesquels, pour l'instant, tu es juste mis en examen, donc tu es présumé innocent. Mais le juge, quand il t'a rencontré, il voulait que tu aies encore un peu de temps pour réfléchir, pour que le jour du jugement, tu puisses dire quelque chose. Pour l'instant, on ne sait pas réellement, enfin, tu vois, ta culpabilité, elle n'est pas établie et tout ça, ce qui va être intéressant pour le juge. Quand tu vas être dans son bureau ou dans le tribunal, je pense que le premier délit, c'est dans le bureau. Tu sais, tu es jugé dans le bureau du juge des enfants. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il demande le juge? Qu'est-ce qu'il demande en règle générale? Qu'est-ce qu'il espère, en fait, un juge des enfants?
Je sais pas, la rédemption.
La rédemption? C'est fort, hein? Ah ben oui, on en parlait. Évidemment, la rédemption, c'est-à-dire qu'on regrette, donc ça voudrait dire qu'on reconnaît. Mais un juge, en règle générale, mais aussi juge des enfants, ce qui l'intéresse, c'est d'être sûr que ça ne se reproduise pas. Parce que ce que l'on sait, c'est que quand les choses continuent en termes de délits qui te sont reprochés, ça vient dire quelque chose et ça vient aussi impacter ton propre parcours. C'est-à-dire si on se retrouve tous les 4 matins en garde à vue et présenté, c'est vrai que pour mener ses projets et tout ça... Donc il veut deux choses. Il veut effectivement, comme tu dis, savoir où tu en es et qu'est-ce que tu penses de ce qui t'a été reproché. Ce sera dans quelques mois, hein, donc ça fera déjà un moment. Et aussi, surtout, bah, comment va Mohamed? Et nous, notre travail, ça va être aussi de lui expliquer comment allait Mohamed au moment des faits. Mais c'est un vrai... Normalement, s'il y a bien quelque chose qui nous différencie, tu sais, des parents... Parce qu'on dit qu'on est éducateur, tous les parents sont des éducateurs, les enseignants ce sont des éducateurs, on est tous des éducateurs. Mais ce qui fait un peu la différence quand on est éducateur comme nous, c'est qu'on n'est pas dans la déception effectivement, on peut faire des propositions, nous ici on a l'habitude, hein. On monte plein de projets pour des jeunes, ils ont super envie, puis ils font pouf au dernier moment, alors ils nous crient pas dessus, mais ça tient pas. Et puis des fois, c'est juste parce que c'est pas le moment. Et puis que c'est d'autres choses dont il s'agit. Parfois, c'est juste des jeunes qui auraient besoin. Effectivement, on a tous envie que les enfants, en âge d'être à l'école, au lycée ou en formation, ils aient un projet. Mais des fois, il y a d'autres étapes avant. On se donne rendez-vous très prochainement. En plus, on va se servir que t'as pas d'emploi du temps.
Tu es disponible un petit peu la semaine prochaine?
Comme vous voulez, moi je suis disponible.
Et on prendra avec vous.
D'accord. Moi, je m'appelle Mohamed. J'ai 17 ans.
Tu as déjà eu affaire à la justice?
Oui, plusieurs fois. Dans le cadre de mes placements et aussi quelques fois dans le cadre pénal.
Et qu'est-ce que tu en penses de cette justice des mineurs?
Elle est... Comment dire? Elle est tolérante. Parce que c'est pas comme la justice normale des majeurs. Elle... elle privilège les aides avant les sanctions. Et c'est important pour des mineurs, parce que si on serait jugé comme les majeurs, je pense qu'à cette heure-ci, on serait déjà tous en prison. Et ils préfèrent aider avant de punir. Et c'est vrai que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça m'a aidé. Pas énormément, mais ça m'a quand même aidé un petit peu. C'est important.
Qu'est-ce qui t'aide le plus, en fait ?
C'était plus les mesures de réparation pénale. Et avec ces activités-là, tu te mets à la place des gens. Et après, dès qu'il y a une tentation de faire n'importe quoi qui vient, bah, tu repenses à ça et ça s'arrête.
Ça, c'est utile.
Ouais, c'est utile.
Mohamed a échappé à la prison, mais Marc n'a pas pu. Il est en ce moment à la maison d'arrêt de Villepinte. Depuis 2 ans, il a connu quartier des mineurs et celui des majeurs.
Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis. Et donc, administration pénitentiaire, et on a la balance de la justice.
Par
nos petits
papiers.
Je vais
tout donner en même temps.
Ouais,
je vois
un contrat jeune,
c'est ça.
Bonjour.
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 Sur les travaux des éducateurs de l'EPJJ.
Oui.
Et donc, elle a pensé à vous. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez rencontré Marie-Lise ?
Je me souviens, c'était pour une histoire de famille. Et après, elle m'a expliqué des choses pour m'aider, pour trouver des formations.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais 17 ans. Ouais.
On peut dire que cette petite période, quand tu n'étais pas encore en détention, on ne s'est pas vu beaucoup. Et après, on s'est vite revu, mais c'était ici.
C'est ça. Vous avez passé un peu de temps au quartier des mineurs ?
Oui.
Combien de temps ?
2 mois.
2 mois. Puis après, vous êtes passé ?
Au majeur. Quartier majeur.
Parce que vous avez eu 18 ans.
J'ai eu 18 ans.
Et là, ça a été difficile ?
Ouais, au quartier majeur, c'est-à-dire que j'avais un peu peur, parce que comme c'est grand, c'est-à-dire qu'on ne sait pas il peut se passer quoi. Et quand on entend dehors ce qui se passe en prison, c'est-à-dire qu'on flippe. Et voilà. Tu réalises que tu es en prison, mais tu es choqué, tu es ici, entre 4 murs. Et toi, dehors, tu dis ouais, je ne vais jamais y aller. Et quand tu arrives, tu es obligé de pleurer. Tu penses à ta famille, tu penses à tout le monde dehors. Et tu regrettes l'effet que tu as fait. Tout simplement.
Pas tout simplement, parce que justement, c'est pas simple tout ça. C'est sacrément costaud ce que tu as traversé. Et au tout début, je pense qu'on réalise pas. Mais du coup, au bout d'un moment, tu es obligé de te dire ben, je suis là. Et je me souviens que quand tu étais chez les mineurs, ça t'avait rassuré un peu. C'était juste, ce qui était important, c'était tes petites choses. Tes choses, suffisamment manger, tes petits trucs. Enfin, comme si tu t'es fait ta grotte, tu m'avais dit. C'est comme une grotte.
Et aujourd'hui, donc, vous avez 19 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Vous venez d'avoir 19 ans.
Oui, c'est ça.
En prison, maintenant, vous êtes chez les majeurs.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Du sport et du sport.
Du sport et du sport ?
Tout simplement. Et prier.
Ouais. Vous lisez un peu ? Vous écrivez ?
Comme je chante, j'écris mes textes.
Vous chantez ?
Voilà.
Vous chantez quoi ?
Je trap, un truc la rue.
Ouais ?
Ouais, c'est tout.
C'est quoi le plus dur, en fait ?
C'est d'attendre, rester dans sa cellule, coucher, rester dormir, à manger, rien faire dans sa journée, c'est ça.
Cette attente-là, c'est normalement pour réfléchir et tout ça. Nous, par exemple, dans les éducateurs de la justice des mineurs, on défend vraiment, on est là pour que la justice, elle prenne du temps. Mais là, au bout d'un moment, nous, on s'en rend compte quand on vient voir les jeunes qui sont longtemps en détention avant le jugement. On sait qu'à un moment, on ne peut pas tout le temps être en train de réfléchir et puis de... Et c'est ça qui est le plus dur.
Là, pour vous, Romuald, c'est trop long, en fait.
Trop. C'est trop. 2 ans, c'est trop. Réfléchir, c'est trop.
Au bout d'un moment, ça fait quoi dans votre tête ?
Je craque, tout simplement.
Et ça veut dire quoi, je craque ?
C'est-à-dire que... Soit je ne sors pas dans la cellule, ou soit je reste dans mon coin, tout simplement.
Là, pour vous, qu'est-ce qui est important maintenant? C'est quoi la chose la plus importante pour vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, ma peine. Je passe mon jugement et ma peine, et voilà, basta.
Et après?
Et après, le projet de sortie. On verra.
Merci.
Bonne journée, bon courage.
Merci, au revoir.
Merci,
au revoir.
Merci, à plus tard.
Au revoir.
Moi, dans ma carrière, des jeunes gens qui ont fait un mandat de dépôt complet de un an renouvelable une fois jusqu'à la cour d'assises, c'est des cas extrêmement rares. On ne peut pas parler de la sortie, parce que sinon, on lui raconterait des histoires. Et en même temps, on est obligé de donner de l'espoir, et en même temps, on veille beaucoup sur la question de continuer d'avoir envie. Alors, je pense qu'il a plein de fois où il n'a plus envie de rien. De toute façon, c'est ce que ça donne, la prison. On n'a plus envie de rien. C'est tellement répétitif, tout est tellement calé. Il dit qu'il devient un homme, mais ils sont, de toute façon, dans une situation, ils sont pires qu'infantilisés. On leur dit à quelle heure dormir, à quelle heure manger, à quelle heure faire se doucher. On est complètement en dehors de la vie que pourrait avoir un homme. Et il y est attaché à ce qui devient un homme.
Il disait un adulte.
Un adulte. Mais je pense que c'est aussi de se dire, de se dégager. Alors il le dit pas comme ça, mais de l'histoire familiale et tout ça. Il aimerait bien pouvoir faire sans, mais je pense que ça va être compliqué. Il y a toujours ces allers-retours entre j'ai pas besoin de ma mère et en même temps cette mère qui peut revenir comme un boomerang comme ça et essayer de reprendre sa vie et de le réinvestir. Elle est revenue à un moment où elle lui a fait plein de projets, où elle-même avait des projets, un nouveau compagnon, une nouvelle grossesse.
C'est une maman qui est jeune.
C'est une maman, oui, qui a eu ses enfants très jeunes. C'est une maman qui a 36 ans.
Sur le parking de l'unité, Marie-Lise, qui revient de la maison d'arrêt de Villepinte, croise Alice Auriol, sa jeune collègue. Elle était en visite auprès d'une jeune fille de 15 ans à Fleury-Mérogis. Alice fait elle aussi partie de l'équipe de Pantin.
Je suis arrivée à la PJ en 2007. J'ai fait une année de contractuel au service éducatif auprès du tribunal pour enfants de Paris. Et je suis arrivée sur Pantin depuis 6 ans fin août.
Vous ne vous occupez pas que du mineur. C'est une prise en charge familiale.
Oui. Oui, parce que la spécificité justement des mineurs, c'est que les parents ils sont responsables également des enfants. Donc on peut décemment pas appréhender complètement une situation d'un gamin si on n'appréhende pas un peu celle des parents. On peut être amené à aussi accompagner les parents dans différentes démarches, soit que ce soit dans le cadre du logement quand il y a des gros problèmes, essayer de faire avancer et les soutenir dans les démarches, quand ça peut être aussi des situations de surendettement, quand ça peut être des problèmes aussi avec le travail, ça peut être plein de choses. Et bien évident qu'un gamin peut pas aller bien si les parents vont pas bien non plus. Enfin, ça marche un peu ensemble.
Je trouve que ça va pas du tout dans le sens de la justice, de ce qu'on attend de la justice ou des services publics aujourd'hui. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent tout ça.
Ça serait, pour moi, dans la vision que j'ai du travail, dans ma manière de travailler, impossible de faire autrement. Parce qu'après, sinon, on risque de tomber sur des dérives où on va faire de l'abattage, où on ne va plus être juste ni bienveillant vis-à-vis des gamins. Et que c'est ce qu'ils attendent aussi, ce qu'ils disent, qu'on nous fasse un peu confiance, qu'on nous donne notre chance aussi. On voit bien que quand on leur donne les moyens de s'ouvrir à autre chose, de découvrir tout ce dont ils sont capables aussi, parce que des fois, ils ont une image d'eux tellement dégradée que du coup, les actes délictueux ne se posent plus. Et que du coup, eux aussi ont envie d'autre chose.
Mais vous n'êtes pas une mère de substitution pour ces enfants de la PJJ.
Il faut pas. Il faut pas parce que c'est là où ça peut devenir aussi dangereux du coup même pour eux. C'est qu'on leur ferait croire des choses qui sont pas vraies et qu'on peut pas leur donner non plus. Et du coup c'est là où on serait déconnant et maltraitant vis-à-vis d'eux. Donc non, on leur doit d'être honnête. Ça, de toute façon ils sont très attachés à ça, hein, à l'honnêteté, à la. Mais ils savent qu'on est là. sans effectivement prendre une place qu'on ne pourra jamais prendre auprès d'eux. Après, ça n'empêche pas d'avoir effectivement une vraie relation de confiance, d'avoir voilà, une vraie complicité avec eux. Moi, je sais qu'il y a des jeunes maintenant que je connais depuis 4 ans, ouais, quand ils déconnent, que ce soit en audience ou sur d'autres rendez-vous, juste avec un regard, ils savent, et hop, ils se reprennent. Enfin, c'est chouette, du coup, de créer ces relations-là. Et puis, c'est des gamins qui peuvent revenir après, une fois que tout est fini. C'est des gamins qui auraient tellement envie aussi d'avoir ces vies de famille et de connaître ces moments de bonheur de famille que beaucoup ont connu, qu'on a pu connaître. Et voilà, ça serait pas bien pour eux.
Vous pouvez entrer.
Aucun incident à signaler ces derniers mois. Pas d'acte de violence depuis plusieurs semaines. Tu gères mieux tes émotions. T'es d'accord avec ça? Comment vous voyez la suite?
Par rapport à sa scolarité, on est dans une impasse, en tous les cas sur le département. Et c'est vrai que Malonie a eu les jambes coupées suite à son entretien avec la principale. Et que là, il ne veut plus du tout entendre parler de collège ou de système scolaire, ce qu'on peut comprendre. Donc là, dans l'immédiat, il nous faut un projet pour avancer.
Ça, c'est bien parlé, ça.
Qu'est-ce qu'il y a, Malonie?
J'ai perdu 6 mois, là. Maintenant, faut que je reparte à zéro.
Parce que le CER, pour toi, c'est 6 mois de perdu, après tout ce qu'on vient de dire.
Tous les efforts, là, hein, parler à la psy, tenir à carreau, réfléchir, tout ça, là, ça sert rien qu'à faire plaisir à vous, à ma mère et aux éducs. Moi, j'en ai rien à gagner là-dedans.
Mais non, Malonie, tu le fais, c'est pour toi et pour personne d'autre. Hein, c'est ton avenir. Et c'est maintenant que tu le prépares.
Alice, vous pouvez nous expliquer qui on va voir maintenant?
On va voir un jeune que j'accompagne depuis 4 ans et demi maintenant, sur le dispositif du Vent se lève, qui se situe à Pantin, où il est accueilli dans le cadre d'un aménagement de peine.
Vous pouvez me raconter un peu l'histoire de ce garçon?
C'est une prise en charge longue, hein, puisque donc ça fait 4 ans et demi. Je l'ai rencontré, il en avait 14. Je l'ai accompagné au travers de différentes étapes, autour de démarches d'insertion, aussi d'accompagnement lors de ses détentions, puisqu'il a connu plusieurs périodes d'incarcération, autant au quartier mineur qu'au quartier majeur.
Il y a eu un passage, un moment que vous avez appelé devant moi un électrochoc. Qu'est-ce que ça a été pour lui?
Oui, effectivement, il a, lors d'une tentative de braquage, il a reçu une balle dans la tête où il a été assez grièvement blessé, nécessité des soins assez lourds.
Et qui ont amené à ce qu'il a un problème de santé grave.
Il a perdu définitivement l'usage de son œil gauche.
D'accord. Donc c'est un gamin qui aujourd'hui a 19 ans.
Oui.
Et dans quel état il est?
Il va bien. Il va bien. En 4 ans, j'ai pu observer toute l'évolution, comment il s'est accroché aussi dans ces périodes passantes d'incarcération, dans tous ces questionnements autour de la vie qu'il peut avoir sur le quartier, de ce que ça représente pour lui, de tous les efforts aussi que ça demande pour aussi pouvoir changer les habitudes de vie. Aujourd'hui, du coup, il est dans le cadre d'un aménagement de peine. Alors, en lien avec le Vent se lève où on se rend, qui est un lieu qui lui fait découvrir tout ce qui est création artistique. C'est vrai que c'est un peu une révélation, autour surtout des ateliers d'écriture. Voilà, il écrit, ça n'arrête plus d'écrire, parce qu'effectivement, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on est arrivé.
Ouais. Bon, on va continuer. Merci beaucoup.
Merci Fabien.
Tu sais où c'est?
C'est là.
T'as le code?
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Alice Auriol?
Moi, ouais, je me souviens. Ouais, j'étais petit, j'étais timide. Mais je me rappelle, je me rappelle plus si je regardais dans les yeux ou pas, mais ouais, j'étais timide en fait.
Si vous n'aviez pas eu ce dispositif-là d'une éducatrice de la PJJ, à votre avis, est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses?
Ah, ça aurait tout changé déjà, je serais pas là, je pense, parce que j'aurais jamais fait les démarches. Parce que moi, quand je vais en prison, je vais dans une optique, je finis ma peine. Et aménagement si je peux pas, c'est pas grave, tant pis. Elle m'a dit, ça a été derrière moi. Elle m'a aidé à sortir de toutes mes peines, d'ailleurs.
Et Alice, elle vous a aidé à comprendre ce que vous aviez fait?
Ouais, elle m'a aidé à comprendre, ouais. Puis, avant, je comprenais pas, parce que j'étais petit, je me disais, elle est en train de me dire quoi? Mais là, maintenant, j'ai très bien compris ce qu'elle me disait. J'ai grandi aujourd'hui et je sais que c'est pas avec tout ce que je fais, tout ce que je faisais, que je vais aller bien loin. Peut-être que ça me fait avancer, mais pas plus que ça. J'ai essayé de voir mon avenir dans ça et dans la vraie vie. Et j'ai vu que dans la vraie vie, mon avenir était plus serein. Et voilà.
Je crois que vous avez découvert et aimé l'écriture.
Ouais, c'est bien.
Ça vous plaît ?
Ouais, l'écriture, ça me plaît parce que tout ce qui passe dans ta tête, tu peux l'écrire. Tu peux le sortir de ta tête en l'écrivant. Et je trouve ça bien parce que moi, je réfléchis beaucoup. Dans ma vie, j'ai trop réfléchi même. Et ça veut dire aujourd'hui, je préfère l'écrire. Écrire, m'inspirer des choses qui sont autour de nous et écrire ce qui se passe par ma tête.
Ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, Lysia, la psychologue de l'unité, l'explore depuis de nombreuses années.
À mardi 31, oui. Aussi à la maison des adolescents. Donc.
Vous travaillez depuis combien d'années à la PJJ ?
Ça va faire 41 ans, là. Je suis rentrée à 20 ans, en 75, à ce qui s'appelait l'éducation surveillée et qui est devenue protection judiciaire de la jeunesse en 90. On est quand même regardé comme recevant ceux qui sont, on va dire, le plus en difficulté, ça c'est moi qui le dis comme ça. Ils sont en difficulté. C'est pas toujours retransmis comme ça. C'est ceux qui sont la patate chaude. Ceux dont on ne sait pas quoi faire et où les mettre. Et ceux dont on n'a pas toujours envie de s'occuper. Incontrôlables. On entend souvent ça. Ils sont incontrôlables. Et donc, quelque part, qui créent de la peur. Psychiatrie, justice, c'est quand même deux lieux, vraiment, deux institutions aussi, qui accueillent des personnes qui font peur. Et d'ailleurs, il y a des mots, mais ils en rajoutent, ils font d'autant plus en sorte de faire peur, parce que ça leur colle à la peau aussi, un peu. Et ensuite, pour nos métiers, je pense qu'on est très assimilés à notre public. Je dis souvent, justice des mineurs, justice mineure. C'est-à-dire, en fait, justice dont on a toujours le sentiment que on pourra toujours s'arranger pour bricoler. Non, on peut pas plus que les autres bricoler. Et on a beaucoup tiré sur la ficelle ces derniers temps, ça c'est sûr. Nous n'arrivons plus rien à négocier du tout. Plus d'argent. Même plus pour les suivis en milieu ouvert, alors que ça a été encore possible un temps. Mais alors, si même on parle de placement, c'est plus possible. Donc, il nous faut tracter avec l'aide sociale à l'enfance qui, des fois, les a jamais connus. Ils aiment pas. En général, ils préfèrent suivre ceux qu'ils connaissaient avant, vous comprenez bien. Pour qu'ils aient un contrat jeune majeur payé par le Conseil général, enfin, parce qu'il y a l'aide sociale à l'enfance qui dépend évidemment du Conseil général, et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis ici, il n'a plus de sous non plus. Donc, je vais vous dire, on ne trouve quasiment plus d'issue pour eux actuellement, même en contrat jeune majeur avec l'aide sociale à l'enfance.
Et sauf dans les cas de radicalisation.
Alors, nous avons un des premiers cas réellement de retour de Syrie d'une jeune adolescente. Un seul. Jeune fille, voilà. Donc nous étions invités à faire une réunion à la direction interrégionale sur toutes les situations de l'Île-de-France, qui ne sont pas très nombreuses d'ailleurs. À cette réunion, nous avons entendu le directeur interrégional adjoint dire que c'est le seul cas où il y aurait des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, donc de protection, qu'ils accepteraient de financer ces mesures-là. Mais moi, je connais des enfants et des adolescents ici qui en ont autant besoin pour des problématiques tout aussi importantes pour leur construction à venir. Et si on le fait pas aujourd'hui, c'est un mauvais calcul de la société, parce que je pense que ça leur coûtera plus cher demain, à tout point de vue.
Monsieur le Vigan, maître, vous pouvez nous laisser. J'aimerais avoir un échange hors audience avec Malonil. Quand tu seras majeur, pour la même connerie que celle que tu peux faire aujourd'hui, tu passeras en comparution immédiate. Et ce sera le centre pénitentiaire direct. De toi à moi, tu penses vraiment que la justice qu'on rend ici au tribunal pour enfants n'est pas à ton écoute ? Hein ?
J'ai pas confiance en vous.
Alors si tu me fais pas confiance, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Oh, maman. Prends les mains quand tu te tords, Malonil. Hein ? C'est maintenant.
Pourquoi je suis là encore ? Pourquoi j'accepte que tu me menaces ? Pourquoi j'accepte que ça se passe mal ? Réfléchis. Pourquoi j'assume tout ça ? Moi, j'assume tout ça parce que je pense que ça peut t'aider à tenir. Parce que je sais que tu peux lâcher. Et que j'en ai pas envie. C'est ce que t'as dit, lâcher, faire une connerie et finir en taule, lâcher.
Thomas, tout à l'heure, on a entendu une conversation téléphonique que vous aviez avec un jeune que vous suivez. pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé ?
C'est un garçon qui a 18 ans et quelques mois, qui a été suivi depuis qu'il a 6 ans à peu près par l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il était dans une famille où ça n'allait pas du tout et où il y a eu plein d'abandons, de violences, de choses comme ça. Ce qui se passe, c'est que depuis un mois, l'aide sociale à l'enfance a arrêté de s'occuper de lui. C'est un garçon qui est encore suivi au pénal et qui devrait pouvoir être accompagné par la PJJ, mais c'est pas le Capone. Hein. Il a plein d'affaires, mais c'est pas des grosses affaires. Il a plein de petites affaires. C'est un garçon qui est sensible et intelligent, même si par moments il peut avoir des bouffées délirantes. Et là, il sent bien que pour dans 10 jours, je suis pas sûr d'avoir une solution d'hébergement. Et donc du coup, il met en place ce qu'il met tout le temps en place, c'est-à-dire un truc de chantage de « je vais tout casser ».
Et donc, en réalité, je vais vous casser aussi ?
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas... En soi, ça c'est... Comment vous dire ? C'est juste la manifestation de l'angoisse qui monte. Mm-hmm. J'ai été obligé de me fâcher parce que c'était la meilleure manière de canaliser sa bouffée d'angoisse.
Il attend quelque chose de vous ?
Bah oui, il dit que je sers à rien. Donc si je sers à rien, c'est qu'il y a l'espoir que je serve à quelque chose. Et donc effectivement, je sais que c'est pas vrai, j'ai pas servi à rien. Avant même répondre à ses demandes matérielles, j'ai servi à canaliser son angoisse cet après-midi. Et donc du coup, c'est pas mal, parce que peut-être ça lui évite un passage à l'acte. J'ai trouvé un lieu de stage qui est d'accord pour le prendre. J'ai fait ouvert son compte pour qu'il puisse toucher son allocation jeune adulte handicapé qu'il ne touche pas alors qu'il devrait l'apercevoir depuis plus de 9 mois. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que depuis un petit moment, ce gamin ne connaît plus de délit. Alors qu'il a un paquet d'affaires au tribunal. Hein. Il a un paquet d'affaires au tribunal depuis un petit moment, mais il ne commet plus de délit. Donc il y a quelque chose qui est intériorisé chez lui de s'inscrire dans quelque chose d'un peu classique. Quoi. Et je crois que la question clé, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut accepter qu'ils soient différents et qu'ils arrivent quand même à trouver leur chemin. Tel qu'il est là, il peut faire des conneries, mais si on s'occupe de lui, s'il a un suivi, s'il commence une thérapie, s'il a un toit sur la tête, s'il trouve un petit boulot, il peut tout à fait vivre correctement dans la société dans laquelle on est. La question, c'est est-ce qu'on veut ou pas prendre le temps et l'énergie et les ressources sociales, économiques, pour lui donner sa chance.
PJJ, quand la justice s'occupe de nos enfants, c'était un reportage de Wafia Kenich, prise de son Frédéric Kérou, Jean-Pierre Pernel et Gilles Gallinaro, réalisation à Nuro assistée de Stéphane Combe, mixage Éric Boisset, Zora Bensmaili compose la page internet de l'émission. Dans quelques instants, le journal de 10h, puis Eva Bester, Remède à la mélancolie. Bon dimanche!